Bonjour. Le thème que j'aimerais vous partager ce matin, Rodrigue, on s'est appelé dans la semaine, me dit Steve, est-ce que tu as quelque chose? Et vous savez, des fois, j'ai quelque chose avant, Dieu parle des fois une semaine, des fois même pour la fois d'après. Puis des fois, il parle vraiment juste avant. Ça dépend, ça dépend. Donc dans la semaine, je dis Rodrigue, pour l'instant, j'ai rien. Je dis j'attends réellement d'entendre sa voix et de voir ce qu'il a à vous dire. Et ce matin, de bonne heure, je me suis réveillé en priant pour vous, en disant, Seigneur, ce serait bien là qu'il y ait quelque chose quand même. Je me dis, ce serait sympa quoi, quand même. Et le Saint-Esprit a mis un thème sur mon cœur qui est en lien avec la première partie de la célébration. Vous savez, on a adoré le Seigneur avec sacrifice de louange. On a adoré le Seigneur avec l'offrande. L'offrande est aussi un acte d'adoration. Et le thème que j'ai eu à cœur de vous partager ce matin, c'est une adoration sans musique. C'est-à-dire, à quoi ressemble une vie d'adoration en dehors de la musique? Parce que souvent, on amène l'adoration à ce qu'on a fait ce matin, et c'est un point de départ, c'est essentiel et c'est vital. De l'adorer avec les instruments, avec nos voix, tu es un instrument sur pattes, avec ta corde vocale, plutôt tes cordes vocales. Mais comment donc l'adorer en dehors de la musique? À quoi ressemble une vie d'adoration sans musique? Et j'aimerais vous dire ceci, qu'on peut d'abord adorer Dieu avec nos œuvres. On peut également adorer Dieu avec nos activités, quelles qu'elles soient. Tu peux adorer Dieu avec ton projet de vie. Tu peux adorer Dieu avec ton entreprise. Tu peux adorer Dieu avec ton travail. Tu peux adorer Dieu en tant qu'employé ou employeur. Parce que l'adoration, c'est un style de vie. Ce n'est pas la musique. C'est un style de vie qui fait monter vers lui la musique de la foi de nos cœurs. Quelles que soient les circonstances. Et j'aime dire ceci. J'entends souvent dire, tu sais, Dieu regarde au cœur. Parce qu'on reprend ce que... Dieu lui-même dit à Samuel lorsqu'il va voir les fils d'Isaïe et il dit mais c'est lui parce qu'il est grand pour le premier grand frère de David pour le faire roi et Dieu lui répond non, l'homme regarde à l'apparence mais Dieu regarde au cœur. Et tout de suite on se dit à chaque fois Dieu regarde au cœur. Puis dernièrement chez nous à La Réunion, il y a un frère qui allait de boulette en boulette. Ça arrive parfois. Il me disait, mais Steve, Dieu regarde au cœur. Tu comprends, Dieu regarde au cœur. Si ma vie, depuis au moins 10 ans, part en vrille, c'est pas grave. Dieu regarde au cœur. Si je brise les relations... Depuis 5 ans, je brise toutes les relations que je connais et ça part aussi en vrille. C'est pas grave. Dieu regarde au cœur. Et à un moment donné, je dis, mais Dieu regarde au cœur. Non, non, non. Dieu regarde aussi aux œuvres. Dieu regarde aux fruits. Et il y a un passage dans l'Apocalypse qui est clair à ce sujet. Quand le Seigneur commence à parler aux églises, il dit aux 7 églises, on entend constamment ceci. Apocalypse 2:2, il commence en disant, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Verset 19, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidélité, ton service, ta constance, et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Plus loin encore, une autre église, il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es morte. Apocalypse 3, 9, je connais tes œuvres. Il n'y a pas une fois où Dieu dit aux églises d'Apocalypse, je connais ton cœur. n'y a pas une fois, il dit, mais là, j'ai regardé au cœur. À chaque fois, il commence en disant, je connais tes œuvres. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Parce que les œuvres, bien sûr, sont connectées au cœur. Un autre verset, au verset 17, il continue, Apocalypse 3. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors et je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends même pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. Là, c'est quand même chaud. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu, alors tu deviendras réellement riche. Des vêtements blancs pour te couvrir, afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux, afin que tu puisses voir clair. Moi, ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Je veux dire, Dieu dit, s'adresse aux églises, à chaque fois il dit, je connais tes œuvres. Et puis il dit, écoute, je ne te dis pas ça pour te blâmer, je ne dis pas ça parce que je ne t'aime pas. À un moment donné, la dernière église, il y va quand même. C'est sec, on dit chez nous. Il y va en disant, oh, tu te crois riche? Il dit, mais réveille-toi, t'es nu. T'es misérable, pitoyable et pauvre. Je veux dire, on écoute et il dit, mais ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Mais il ne parle pas d'une punition. Il parle de la correction dans la parole de Dieu, c'est changer de direction. Donc il dit, ce que j'aime, je veux qu'il change de direction. Je veux qu'il se repente. Je veux qu'il manifeste des œuvres qui réellement me rendent gloire. Je veux que leur cœur se soit accordé avec les œuvres de leurs mains. Parce que ce que Dieu nous demande, c'est aussi de l'adorer avec le travail de nos mains. 1 Timothée 2,8 nous dit ceci. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Vous savez, on pense que ici, ça signifie que Dieu parle réellement des mains. C'est quand on va prier, on va se laver les mains et on va les lever. Et on va dire, ça y est, les mains sont pures. Ce n'est pas en réalité des mains ici que Dieu fait référence. Il fait référence au travail de tes mains. Quand il dit, élevons des mains pures, il est en train de dire, hey, ce que je veux, comme il reprend les églises de l'Apocalypse, c'est que tes œuvres, ce que tu fais, tes projets, ton activité, c'est cette activité-là, je veux qu'elle soit pure. Et que tu présentes à Dieu, quand présenter à Dieu des mains pures, c'est lui présenter une activité qui le rend gloire. C'est dans ce sens, quelle que soit ton activité, que ce soit l'église, comme aujourd'hui on se réunit, et quelle grâce de se réunir dans cette église qui nous accueille, c'est juste magnifique. Mais en même temps, dans la semaine, chez toi, le travail de chaque jour, Dieu parle ici de présenter ton activité comme une offrande pure. C'est de ça qu'il parle ici dans 1 Timothée 2,8. Pur signifie qui n'est pas dégradé, qui est sans mélange, pas souillé, qui n'est pas affecté par le péché, par exemple comme l'envie, la jalousie ou les mauvais désirs. C'est une activité qui réellement l'honore. Tu offres à Dieu ton activité comme une offrande. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Ça parle de ça. Et c'est Jésus qui dit ça. Vous savez que Dieu n'accepte pas toutes nos offrandes. Il n'accepte pas tous nos sacrifices. Parfois, on se dit, mais attends, mais j'ai quand même offert ça à Dieu. Mais des fois, Dieu ne reçoit pas ce qu'on peut lui offrir. Donc moi, je me dis, autant mieux lui offrir quelque chose qu'il va recevoir. Et Malachi 1, par exemple, au verset 8, nous dit « Quand pour le sacrifice, vous venez présenter un animal aveugle, n'y a-t-il rien de mal ? Et quand vous présentez une bête éclopée ou un agneau malade, n'y a-t-il rien de mal ? Offrez-le donc à votre gouverneur. Sera-t-il content de vous ? Ou vous fera-t-il bon accueil ? Dit l'Éternel, le Seigneur des armées. » À chaque fois qu'ils offraient un sacrifice, ils offraient quelque chose de boiteux, de malade, d'extropié. Et Dieu dit, « Oh, va offrir ça à ton patron. » Dit, « Tu offrirais ça à ton patron ?» Dit, « Pourquoi tu m'offres quelque chose d'extropié ?» Ici, dans Malachi, Dieu parle à son peuple en Israël. Mais il y a un autre exemple dramatique dans le Nouveau Testament qui fait référence un peu à ça. Un couple qui offre à Dieu une activité estropiée. Et dans le livre des Actes, acte 5, c'est un couple qui s'appelle Ananias et Saphira. On voit ici qu'il donne à Dieu quelque chose, mais il donne quelque chose de souillé. Il manifeste des œuvres souillées. Et il y a réellement, à ce moment-là, une intervention de Dieu assez radicale. Et acte 5, verset 1 nous dit « Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. » Ils ont retenu une partie du prix. Sa femme le sachant. Puis, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? S'il n'eût pas été vendu, ne t'en resterait-il pas ? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Je disais, mais quelle histoire dramatique ! Ils vendent un terrain, imaginons 100 000 euros. Ils ont le choix de dire, on garde 50 000, on donne 50 000. Mais ils ne font pas ça. Ils arrivent et disent, voici ce que le terrain nous a rapporté, 80 000. Mais ils ont menti, ils ont gardé 20 000. Or qu'il leur suffisait d'être honnête et de dire, on a vendu le terrain 100 000, on a gardé 20 000 et on a eu à cœur de vous offrir 80 000. Mais ils ne font pas ça. Ils veulent bien passer aux yeux des apôtres et ils vendent un terrain à un prix. Ils veulent faire croire que c'est à ce prix alors qu'ils ont gardé une partie. Et donc, ils ont menti. Et leurs œuvres ont reflété leur cœur. Et malheureusement, à ce moment-là, Ananias et Saphira, juste après, meurent. Ils offrent quelque chose à Dieu. Ils offrent un terrain à Dieu. Je veux dire, ils n'auraient pu rien offrir. Ils ne seraient pas morts. Vous imaginez ? J'aurais vendu le terrain, dit Seigneur, on ne te donne pas. Ils étaient libres, on garde ça pour nous. On va aller au resto. Toute l'année. 100 000, ouais, toute l'année. Donc je me dis, ils auraient pu. Ce Dieu, ils ne seraient pas morts. Mais ils font quelque chose qui est souillé. Ils n'adorent pas Dieu avec l'œuvre qu'ils veulent faire. Et à ce moment-là, malheureusement, les deux meurent et quittent la terre. Présenter des mains pures à Dieu, c'est présenter une activité qui leur rend gloire, qui provient d'un cœur entier honnête, intègre et qui désire lui donner le meilleur. Présenter des mains pures, c'est offrir son activité comme une offrande, comme un sacrifice qui lui plaît. C'est ça, offrir des mains pures. Ce genre de sacrifice, écoutez bien ceci, attire le feu du ciel sur ton activité. Parce que le feu de Dieu ne tombe jamais sur un autel vide. Et quand ce que tu fais, c'est-à-dire n'importe quelle activité que tu fais, lorsque celle-ci est réellement offerte à Dieu comme un sacrifice qui lui plaît, tu ouvres le ciel sur ton activité. Tu attires le feu du ciel sur ton projet. Le bon feu, pas celui d'Ananias et Saphira. Lorsque le projet que tu fais est pur. Parce que tu élèves vers Dieu des mains pures. C'est possible de faire en sorte que le feu du ciel demeure sur ta mission. Elle demeure d'abord sur toi. Parce que ce que tu vas faire va être que le prolongement de ce que tu es. De ton cœur. Il y a une association chez nous, par exemple. Il y a tellement un ciel ouvert sur cette mission que toutes les semaines, 2-3 fois par semaine, on reçoit des rapports, des nouvelles. Et comme on aime dire, c'est indécent. La manifestation de la faveur et les portes qui s'ouvrent tout azimut, constamment, de manière irréelle, improbable. Tu te dis, mais ça sort d'où? Ça sort d'où ces connexions de ouf? Ou des gens que tu n'as même pas contacté, qui t'appellent et qui disent, voilà, qui sont dans le monde et qui disent, on veut vous soutenir. Et on vous donne tant de milliers d'euros. Et voilà, on aimerait se connaître, on a tant de choses à faire pour vous. Voilà, on vous appelle à siéger avec nous dans telle commission, voilà. Et ça n'arrête pas. Et on a plein de missions comme ça, par la grâce de Dieu. Celle-là, vous connaissez, celle-là, c'est Famille Espoir, vous connaissez Cédric, qui est déjà venu ici. Et à chaque fois, encore ce week-end à Montpellier, des fois, comme je dis, je ne sais même pas quoi répondre. Je fais Zungudu. J'écris ça. J'écris en langue. Je prie plus en langue, j'écris en langue. Je tape le truc, je sais plus quoi dire. Juste dire Dieu est bon. Et c'est un exemple de comment il y a un ciel ouvert sur la mission. Parce que le leadership de cette mission élève vers Dieu des mains pures. Et que ce soit le culte, une église, comme activité, ou que ce soit ton travail, quel que soit le travail de tes mains, il est possible d'ouvrir le ciel sur ce travail. Et c'est ce que Dieu veut. Il est possible. Maintenant, il sera fait selon ta foi. Certains peuvent se dire, attends, tu ne connais pas mon patron, toi. Attends. Ou tu ne connais pas dans quel contexte je travaille. Dieu est bien plus grand que le cadre de ton travail. Il est bien plus grand que ton patron. Il est le patron des patrons. Et donc, quand on l'honore, il est juste. Et c'est bon pour nous de comprendre qu'il y a une possibilité que le travail de nos mains l'adore. Un style de vie d'adoration ne commence pas uniquement avec de la musique. Ça commence avec de la musique, ça se poursuit avec nos œuvres. Ça se poursuit avec nos activités. Ça se poursuit avec nos relations. Comment donc, on va essayer de répondre à quelques points à cette question. Comment ouvrir le ciel sur son activité? Comment, quelque part, adorer Dieu avec ce que nous faisons? On va essayer de voir ça. Quels sont quelques principes qui, quel que soit ce que tu fais, va permettre à ce que Dieu te dise un jour, je connais tes œuvres et elles me rendent gloire. Ça va être bon. Et tout d'abord, il faut toujours, on a vu la première partie, c'est connecter à notre cœur. Dans Lamentations 3, 40, la Bible dit « Considérons notre conduite, examinons-la, puis revenons à l'Éternel, élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. » C'est pareil, comment tu élèves ton cœur? Tu le prends, tu le fais comme ça? C'est imagé, c'est comme les mains. C'est dire qu'il y a une connexion. Comment tu élèves ton cœur? Parce que tu sanctifies le Seigneur dans ton cœur et tu le donnes une place d'honneur et de priorité. Et c'est pareil dans ton activité. Et un des premiers points que j'aimerais voir avec vous pour réellement attirer en tout cas un ciel ouvert sur ce que tu fais, c'est la nécessité de la prière. La parole de Dieu dit dans 1 Timothée 4, 5, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Le mot sanctifié, comme vous le savez, signifie en général mettre à part, dédié à Dieu. C'est-à-dire mettre ton activité au service de Dieu pour l'honorer. Tu peux mettre ce que tu fais, le dédier à Dieu pour l'honorer. Tu peux faire en sorte d'honorer Dieu avec ce que tu fais, en le mettant à part. Tu pries. Dernièrement à Paris, il y a un étudiant de destinée qui vient me voir. Il est formateur. Il dit, Steve, voilà, j'ai un programme assez chargé. Je veux faire un projet, mais je n'ai pas vraiment d'idée. Et avec l'église, je suis pris tous les week-ends. Et avec la vie de famille et en plus mon travail, j'essaie de trouver de l'espace et du temps, mais c'est compliqué. Je dis, tu fais quoi? Il dit, ben écoute, je suis formateur, tous les jours je forme. Je dis, mais c'est génial! Voilà ton projet! Il me dit quoi? Je dis, mais quand tu formes tes gars ou les étudiants qui viennent dans ta formation, fais en sorte que tu prennes un temps pour sanctifier ton activité. D'abord, tu pries et demande au Seigneur comment tu peux l'honorer en servant ces personnes. Je dis, d'habitude, qu'est-ce que tu fais? Il m'explique, ben, ils arrivent, je les accueille, je les encourage, je fais la formation. Je dis, alors voilà ce que tu peux faire. Tu vas et tu vas acheter un cadeau pour tout le monde. Tu vas vraiment acheter un cadeau pour tous les gars qui vont venir se former chez toi cette semaine. Et tu sais ce que tu fais? Tu pries pour chacun d'eux. Et s'ils ne sont pas chrétiens, sois et du tact. Tu écris sur un petit mot, tu écris un petit mot d'encouragement. Chacun nom et prénom. Et sur le petit mot d'encouragement, tu leur dis ce que tu reçois sur ton cœur de la part de Dieu pour eux. Mais tu ne dis pas « Oh, Dieu m'a dit que ». Tu ne dis pas ça, tu ne dis pas « Oh, Dieu m'a dit que ». Tu encourages la personne. Tu dis « Merci d'avoir fait cette formation. C'était un honneur de vous recevoir. Plus que ce que vous faites, ce que vous êtes qui compte pour moi. » Tu dis un truc comme ça. Tu te dis « Je veux vous remercier. Et c'est pour moi un honneur de vous servir. » Et cet honneur-là, tu l'accompagnes avec un cadeau en début de semaine et avec un superbe apéro en fin de semaine. Mais tu fais un apéro qui te coûte, ça te coûte ton apéro. C'est toi qui payes. Je dis, voilà une idée de projet. C'est comme ça que tu mets à part ton activité pour lui rendre gloire. C'est un exemple. C'est un exemple. Mais comme on n'arrive pas, on croit que l'adoration, c'est que là. Un élève, un étudiant peut honorer son prof à l'école. Tu peux adorer Dieu avec tes œuvres, avec ce que tu fais. Mais la parole de Dieu dit que d'abord, il est nécessaire de prier parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et donc, tu mets ton activité à part déjà lorsque tu pries. Tu la mets à part et tu dis, wow, il faut que quelqu'un... Je dis, qu'est-ce qui va te différencier d'une autre formation? De quelqu'un qui forme, et peut-être qu'il est plus talentueux que toi dans la formation, mais il ne connaît pas Dieu. Qu'est-ce qui va te différencier? C'est l'amour que Dieu a mis dans ton cœur. Il faut que l'amour ressemble à quelque chose au travers de ton activité. Donne une forme à l'amour si tu veux adorer Dieu avec ton activité. Et ça, c'est bon. Et l'Église de Christ que nous sommes, parfois, on manque de créativité, d'ingéniosité à faire le bien. Et c'est ça aussi, comme je vous dis, adorer Dieu avec ses œuvres, élever vers lui des mains pures. Et ces gars-là, qu'est-ce qu'ils vont te dire à un moment donné? Ils vont te dire, tu sais, personne ne nous a jamais dit ça. Merci pour le mot, quand je l'ai lu, ça parlait à mon cœur. Merci, merci parce que personne ne m'encourage comme ça. Ce genre de choses-là, merci parce que, ce que tu as fait, c'est juste énorme. Par exemple, je dis, tu peux adorer, tu emmènes la parole de manière concrète en faisant ça. Quand tu pries, tu essaies d'être attentif à Dieu. La prière, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Tu pries pour dire, Seigneur, donne-moi, aide-moi à être créatif pour que je puisse t'adorer avec mes œuvres. D'où la nécessité de la prière. Tu consacres à Dieu ce que tu fais. C'est-à-dire que tu donnes un caractère sacré à ton projet. Tu donnes un caractère sacré à ton activité. Et comment tu fais en sorte que cette activité soit sacrée? Eh bien, tu fais en sorte que cette activité transpire, respire l'amour de Christ. C'est dans ce sens. La nécessité de la prière. Deuxième point, la nécessité de la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut donc une dimension de foi dans ton activité. Il faut donc une telle part. La foi implique le risque. La foi implique que tu crois que Dieu va agir d'une façon ou d'une autre. La foi, c'est que tu invites Dieu à être ton principal partenaire et collaborateur dans ce que tu fais. Tu dis, j'ai peut-être plein d'associés, mais mon principal associé, c'est lui. Et la foi, non seulement fait que Dieu soit ton associé, ton collaborateur, mais c'est lui qui devient ton vrai patron. Tu dis, que ce soit à l'église ou dans ton travail, je ne viens pas servir parce que j'aime bien Rodrigue. J'ai vu son petit mouvement de danse, là, c'est super. Je dis, je ne viens pas juste pour servir parce que Rodrigue et Marie-Hélène sont super sympathiques, et c'est top. Ici, je suis dans ma famille. Donc c'est... Non, tu fais parce que tu les aimes, mais tu fais surtout pour lui. Et tu te rends compte qu'il est le pasteur de toutes les églises, qu'il est le bon berger. Et quand tu fais, tu dis, ok, c'est la famille de l'église qui va être au bénéfice de mon service, mais quand je sers Dieu. Et quand je sers un service, je ne veux pas lui offrir un agneau extropié. Je ne peux pas arriver et vous partager sa parole parce que je pourrais partager plein de choses. Je pourrais dire à Rodrigue, attends, j'ai un vieux message dans un tiroir. Je vais vous partager ça ce week-end. Jamais. Des messages, j'en ai. Hein. Mais non. Je dis, Seigneur, pour toi et pour ton peuple, il faut que ce soit frais. Qu'est-ce que tu as à dire? Je prie. Il faut que je t'entende. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Je ne fais pas, je vais sur mon ordinateur et pouf. Voilà, ça va être bon pour eux. Je ne fais pas ça. Parce que lui et vous méritez d'être honorés. Si vous vous déplacez pour écouter sa parole, vous méritez d'entendre ce que Dieu a à vous dire. Et je veux juste essayer de faire de mon mieux. Dans la prière et dans la foi, quand j'ai entendu, je crois, je dis, ok, c'est ça que tu as pour eux, Seigneur. D'accord. Et ça va parler à plusieurs ce matin. Ça va les provoquer. Certains vont être brassés. Je dis quoi à Dieu? Ça va changer la direction. Parce que tu connais nos œuvres. Et parce que tu nous aimes, tu désires qu'on change de direction. Et qu'on t'adore avec notre activité. Pas uniquement avec la louange. Mais tu désires entendre la symphonie de notre activité. Vous savez, un jour, Dieu me dit clairement, « Steve, tous tes projets ont un son. » Tout ce que tu fais a un son qui monte vers moi. Et Jésus dit lui-même, « Mes œuvres parlent d'elles-mêmes. » Alors, quand le Saint-Esprit m'a dit, « Steve, mes projets ont un son. » Je dis, « Waouh, faut que j'aille voir ça. » Et là, il me conduit à ce que Jésus dit. Mes œuvres parlent d'elles-mêmes. Et dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins en mes œuvres, dit Jésus, parce que mes œuvres parlent. Donc peut-être que ta famille ne croit pas en toi, mais tes œuvres parlent. Elles parlent tellement que si elles donnent gloire à Dieu parce qu'elles sont imbibées de son amour, elles sont capables de faire taire ceux qui te critiquent aujourd'hui. Parce que Pierre a dit, par vos bonnes actions, faites taire ceux qui vous calomnient. Par vos bonnes actions, faites taire ceux qui vous calomnient. Tes œuvres parlent. Elles font monter un son, une symphonie, une musique, une adoration. Et le thème de ce matin, c'est adorer Dieu sans musique. Une adoration sans musique, un point d'interrogation. C'est possible, bien sûr. Parce que si on adore là, et on le loue, et on chante, et les activités de la semaine sont estropiées. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tu lui offres une activité entière. Ton activité comme un sacrifice qui lui est agréable. C'est-à-dire, tu dis, non, Seigneur, je veux faire du mieux que je peux. Parce que le troisième point que j'aimerais voir avec vous, c'est la nécessité d'un service excellent. Tu veux que le feu vienne sur ton activité? Il est nécessaire de lui offrir un service excellent. Et l'excellence, ce n'est pas le fait que tu es meilleur que les autres. Pas du tout. C'est que tu fais le meilleur pour les autres. L'excellence, ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres, c'est parce que tu essaies de donner le meilleur de toi-même pour les autres. Il y aura toujours meilleur que toi, meilleur que moi, il y aura toujours meilleur que nous et moins bon. Tout le temps. Mais tu ne cherches pas à être meilleur que les autres. Tu cherches à faire le meilleur que tu peux pour les autres. Est-ce que ton activité donne du goût à la vie de ceux qui t'entourent? C'est ça être le sel de la terre. C'est ça être la lumière du monde. C'est est-ce que ton activité, tes œuvres, donnent de la saveur aux relations qui t'entourent? Est-ce qu'en tant que mari, ton style de vie donne du goût à la vie de ta femme? Est-ce qu'en tant qu'épouse, ton style de vie donne de la saveur à ton mari? C'est dans ce sens la nécessité d'un service qui est excellent. Vous savez, lorsqu'on sert Dieu, Dieu est toujours plus intéressé par nos motivations que par ce que nous faisons. Il veut scruter. Il veut scruter dans quel état d'esprit on le sert. Il veut regarder quel état d'esprit nous anime lorsque tu viens servir Dieu. Est-ce que tu viens servir, je ne sais pas, que ce soit la louange ou à l'église ou ailleurs, tu dis, bon, la louange, je suis habitué, le chant, je n'ai même pas envie de l'apprendre par cœur, on a changé de salle, ça me prend la tête. Là, tu arrives, je te loue, Seigneur, j'ai oublié. Je prends un exemple de la louange, et là, on dit, on sert Dieu. Non, là, on rend service. Il y a une différence entre rendre service et servir. Dieu parle de la nécessité. Tu veux que ton activité, quelle qu'elle soit, ta fonction de mari, d'épouse, d'employé, d'employeur, de directeur, je ne sais pas, de cadre, d'agriculteur, je ne sais pas, de docteur, ce que tu es, de prof, de formateur, de pasteur. Peu importe, oublie le cloisonnage culturel. Ce que tu fais, tes œuvres ont un son. Et il est nécessaire de prier, il est nécessaire d'avoir la foi, et il est nécessaire d'offrir un service excellent dans ce que nous faisons. Et pas un service juste. Ah, Seigneur, écoute, c'est la seule brebis que j'ai trouvée, elle est un peu estropiée, prends pour toi. Donc je lève mes mains vers toi avec un service qui n'est pas trop pur, mais ce n'est pas grave, contente-toi, tu es Dieu. Et ce n'est pas possible de fonctionner comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on attire le feu du ciel sur ta mission. Il est nécessaire de se dire, attends, comment je peux faire ? D'abord, ton cœur, on a vu, Dieu scrute les motivations, Dieu regarde au pourquoi. Et tu ne cherches pas à rendre service à ton patron. Tu cherches à honorer le patron des patrons. Et pour ça, c'est nécessaire d'être excellent, de tendre vers ça dans le service. La Bible dit, avec l'exemple de Caleb, la Bible dit parce que Caleb, mon serviteur, a été animé d'un autre esprit. Le mot « autre esprit » parle que Caleb avait une façon de servir différente. Et le mot « autre » signifie, il était, le mot « autre » c'est le mot en hébreu « asher » qui signifie « après », c'est le suivant. Il avait un esprit prophétique dans ce qu'il faisait. Il avait un esprit qui s'attendait à ce que les promesses de Dieu se réalisent. Il était déjà en train d'attirer son futur dans le présent. Le gars attirait le ciel sur la terre. Il avait un esprit qui faisait en sorte qu'il connaissait comment faire descendre le feu sur son activité. Il croyait en la parole de Dieu. Il avait gardé la promesse. Il ne travaillait pas juste pour battre l'ennemi. C'est pas ça. L'ennemi était la conséquence de ce qu'il fallait faire. Mais il travaillait pour que les promesses de Dieu se réalise. Et tu as une promesse dans ta vie, quelle que soit ta fonction, quel que soit ton ministère. Je le dis toujours quand je viens ici et partout, tu n'as pas un ministère, tu es un ministère. Et il faut apprendre à servir Dieu là où on est avec un autre esprit. C'est-à-dire un esprit qui anticipe ce que Dieu va faire, un esprit qui s'attend à la réalisation de sa promesse après le combat. Je vais combattre parce que je sais, je m'attends à son intervention. Ça parle de ça, un autre esprit. C'est un esprit qui garde Dieu, tu es fidèle, tu es juste. Et même si mon patron me prend la tête, c'est pour le patron des patrons que tu es que je sers et que je veux faire un travail qui t'honore. Parce que je sais que tu es juste et que tu vas intervenir tôt ou tard. Et tu renouvelles mes forces. Et tu me fortifies. La Bible dit que Caleb, dans Josué 14, Caleb dit, il y a 45 ans depuis que l'Éternel a adressé la parole à Moïse, pendant qu'Israël voyageait au travers le désert. Il m'a conservé en vie selon sa promesse. Pourquoi Caleb avait un autre esprit dans son service? Parce qu'il servait la promesse de Dieu. La promesse de ressembler à Jésus-Christ. La promesse d'être transformé en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est cette promesse-là que tu sers. Ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton activité. Ça, c'est la conséquence, le fruit, le by-product, comme on dit en anglais. Ça vient après. Mais la promesse, c'est que, mais à ceux qui l'ont reçue, elle, la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça parle de ça. Ça parle de ces promesses-là pour toi, pour moi, pour jeunes et moins jeunes. C'est ça la promesse. Et il faut être passionné par sa promesse. Viens pas à l'église juste pour avoir une bonne célébration. On vient à l'église pour le connaître plus et pour être transformé à son image. C'est dans ta présence qu'on est transformé, on a chanté tout à l'heure. Mais oui, mais nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. Si l'Esprit est là, alors il y a la transformation qui est là. Mais la transformation, comment? À son image. C'est sa promesse. Et Caleb était passionné par la promesse. Et il dit ceci, j'ai aujourd'hui 85 ans et je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'avait envoyé en mission. J'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Maintenant, donne-moi cette montagne que l'Éternel m'a promis. Wow! que tu gardes la promesse, tu gardes la vie. Il dit ceci, il dit, il m'a conservé la vie selon sa promesse. Quand quelqu'un sert Dieu, tu ne sers pas ton activité, tu sers sa promesse et tu sais que quelle que soit ton activité, elle va te faire participer à la nature divine. C'est pour ça que nous avons reçu les plus belles et les plus précieuses promesses. Donc tu fais attention que ton activité, quelle qu'elle soit, te fasse participer à cette promesse. Et cette promesse, elle est là, tu la cultives dans ton cœur, tu la chéris, tu la gardes, tu l'aimes, tu es passionné par cette promesse. Et comme Khaled, cette passion pour la promesse, elle te donne sa vie. Parce que si tu possèdes sa promesse, tu possèdes la vie. Et c'est pour ça que Caleb dit, j'ai 85 ans, 40 ans après, je suis toujours motivé, en forme, je suis motivé et en forme. Dis parce que sa promesse est là et elle brûle dans mon cœur. Donne-moi cette montagne. Je veux ressembler à Jésus. Et c'est ce que nous devons réaliser. C'est pour ça qu'il avait un autre esprit. Il ne servait pas mon serviteur, Caleb, mon serviteur, Caleb, mon serviteur, Caleb, il est animé de notre esprit et nous avons reçu le Saint-Esprit pour offrir à Dieu un travail excellent. Parce que tu as la puissance et le potentiel de changer tes circonstances. Et ça commence en toi d'abord. Ça parle de servir un service où l'excellence, écoute bien ceci, est l'offrande et le sacrifice que tu offres à Dieu. L'excellence est le surcoût que ça va te coûter, que personne ne t'a demandé, mais que l'amour t'a poussé à faire pour l'honorer. Voilà c'est quoi l'excellence. C'est parce que tu aimes Jésus et que tu aimes ton prochain comme Jésus l'aime, que tu désires faire une chose excellente pour lui. Et l'excellence est l'offrande, le sacrifice motivé par l'amour que tu mets en plus de l'activité que tu sais faire. Et quand tu joins cette activité avec cette excellence, tu fais en sorte que ta mission, ton projet, ton activité soit offert à Dieu comme une offrande qui le rend gloire. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions réaliser. Luc 6, 31. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Matthieu 7, 12. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. C'est là tout, c'est pas un petit peu, hein? C'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Tu fais aux autres ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. C'est aussi sa parole. Et qu'est-ce qu'on aime que les gens fassent pour nous? J'ai partagé ça à Clé Destinée ici à l'école. Et j'aimerais prendre cette partie parce que en priant, j'ai eu à cœur vous partager cet exemple de service en prenant l'exemple d'un restaurant. En disant qu'est-ce qu'on aimerait? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens fassent pour toi quand on te sert? Tu aimerais qu'ils soient polis avec toi? Non? Tu aimerais qu'ils soient gentils? Tu aimerais que les personnes soient reconnaissantes avec toi? Oui ou non? Tu aimerais qu'on te considère? Et c'est ça qu'il faut faire aux autres. C'est exactement ça qu'il faut faire aux autres. Pour apprendre à les considérer. Parce que servir Dieu, écoute bien ceci avec excellence, c'est servir son amour aux autres. Servir Dieu avec excellence, c'est servir sa volonté aux autres. Servir Dieu avec excellence, c'est servir sa parole aux autres qui apportent la vie. Ça parle de ça. J'aime bien cet exemple. Imagine, tu vas à un restaurant, on te dit que c'est un super restaurant étoilé, et que quand tu arrives dans ce restaurant, tu arrives à l'entrée, à l'accueil, t'as un gars qui est là, qui fait, vous avez dit pourquoi? Et là, tu regardes, tu dis, ah, ben, pour manger, là-bas. Bon, ok, tu dis, purée, tu vas là-bas, tu vas t'asseoir. Puis il arrive, il te donne le menu comme ça. Et puis tu regardes le menu, il s'en va. Tu attends une demi-heure, il revient après. Tu t'es choisi. À un moment donné, ouais, ça fait une demi-heure que j'attends quand même. C'est quoi? Bon, on va prendre le menu du jour. Il n'y a plus. Là, déjà, tu dis, Seigneur, que je puisse t'offrir ce repas de restaurant comme un sacrifice vivant déjà. Je dois mourir à moi-même parce que j'ai envie de le claquer, le gars. Et là, tu es en combat avec toi-même, tu dis, je le claque, je le claque pas. Je le claque, je le claque pas. Qu'est-ce que je fais? Et déjà, dans le bon restaurant, là, tu commences à perdre goût au repas. Tu as envie d'une chose, c'est soit de fuir, partir, changer de restaurant, ou réellement le claquer. Ou lui dire, hey, je ne sais pas ce que tu as vécu ce matin, mais réveille-toi, je suis client, moi. Et pourtant, tu vois, restaurant étoilé et tout, tu restes là, on t'offre le repas. Et le repas est bon, mais tu es déjà tellement en train de te retenir pour ne pas t'énerver. Tu manges vite et tu dis allons à ton épouse, allons partir, parce que là. Je te dis que le menu est terminé, on y va. Et là, comme toi, tu es un enfant de Dieu, quand tu as la facture, tu arrives, tu te dis, bon, je vais lui donner encore au moins 50 euros de pourboire, même s'il m'énerve. Ah, parce qu'on fait tout ça en général. Parce qu'on fait comme pour le Seigneur, on ne fait pas pour les gens, donc... On sait que là, c'est un sacrifice du Seigneur. Je suis mort, très profondément mort à moi-même. Et comme je suis mort à moi-même, je t'honorais. Donc, il m'a énervé. Dieu a dit, bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent et vous maudissent. Tu es là-dedans, tu es tellement en phase avec le Seigneur. Tu dis, bon, il m'énerve tellement, 20 euros pour boire pour lui. Et tu t'en vas. Ou tu vas dans un autre restaurant, cette fois-ci, c'est moins 10 étoiles. C'est le petit truc, vous dites un boui-boui ici? Le petit boui-boui, tu vois. Vraiment, tu rentres. Je sais pas trop. Mais tu arrives, t'as personne qui arrive. Bonjour monsieur, bonjour madame. Vous allez bien? Oh, soyez les bienvenus. C'est une joie de vous recevoir. C'est votre première fois? Et là, tu te dis, c'est ma première fois, c'est la première fois. Choisissez la table. On a pas mal de réservations, mais comme c'est votre première fois, on aime honorer les premières personnes qui viennent pour la première fois. Donc, vous avez une priorité sur le choix des tables. Donc, choisissez. Il y a terrasse, la vue sur mer de ce côté, vue sur la montagne ici et tout ça, vue sur la neige, on est à Montpellier. Et là, la personne te dit ça, tu choisis une belle table, tu t'assois, c'est sympa. Elle arrive dans 2 minutes, vous avez choisi? Non, pas encore. 2 minutes après, vous avez choisi? Non, pas encore. Vous avez choisi? Non, pas encore. Laissez-nous le temps de choisir. D'accord. Ok, pas de souci. Mais en attendant, alors, si vous ne prenez votre temps, voici toujours un petit amuse-bouche. Allez-y, faites-vous plaisir. Et d'ailleurs, la maison vous offre pour votre première participation, réellement un petit apéro offert par nous. Vous inquiétez pas. Le café sera offert aussi, parce que nous voulons honorer les clients qui nous visitent, et que vous puissiez avoir un bon souvenir de nous. Là, t'arrives, le menu, tu donnes le menu du jour rapidement. Le repas arrive, le sourire. Et c'est pas le restaurant étoilé. C'est bon, mais c'est pas le truc extraordinaire, mais l'accueil, la gentillesse, la passion pour la personne, le service, l'amour qu'elle a manifesté, était là, et la personne t'a considéré, et la personne a été polie, et la personne a été reconnaissante. Là, quand tu arrives, tu fais « Wow, je vais aller tout de suite sur TripAdvisor déjà, hein, et je vais lui mettre 5 étoiles. » Je dis « Restaurant très bon, parce qu'eux, ils méritent d'être venus. » Et d'ailleurs, je reviens la prochaine fois avec les amis. D'accord, c'est pas trop joli, et le repas peut-être pas au top, mais purée, est-ce que les gens sont gentils. Quel des deux restaurants va te laisser un meilleur souvenir? La bonne bouffe ou le bon service? Exactement! C'est bien ça! Vous êtes fort! C'est le bon service! Mais comprends bien, quel que soit ce que tu fais, ton activité est toujours accompagnée d'un service que tu offres. Tu vas toujours offrir à ton patron un service, à tes collègues un service, à tes élèves un service. Tu vas toujours offrir à tes clients un service. Même une entreprise de produits offre un service avec le produit qu'elle offre. Et comme le restaurant, c'est pas une entreprise juste de service ou de réparation, comme de plomberie, où là on dit c'est un truc de service par exemple. Là, c'est la restauration et le produit, c'est le repas. Mais plus que le repas, c'est le service qui va te marquer. C'est pareil pour une église. C'est pareil pour n'importe quelle église. Et c'est pareil pour n'importe quelle mission. C'est pareil pour n'importe quelle activité. C'est pour ça que tu peux adorer Dieu avec ton activité. C'est possible en mettant le service à part avec la prière, en écoutant Dieu, en ayant la foi, en lui offrant un service qui est excellent. Tu cherches à ce moment-là réellement à l'honorer au mieux. C'est possible. Parce que tu fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Mais tu le fais avec une telle excellence, un tel amour, une telle gentillesse, une telle bonté. Cette fois-ci, quand tu pars sur les restaurants-là, tu dis, purée, c'est 100 euros pour moi. Parce qu'en France, on donne beaucoup de pourboire, 1 euro, 20 centimes. Et on dit que Dieu vous bénisse, tenez 20 centimes. Ou on ne donne pas du tout, on dit tenez rien du tout, mais que Dieu vous bénisse quand même. Le nombre de personnes qui ont déjà été gagnées au Seigneur juste à cause de pourboires généreux, c'est énorme. Mais ça te coûte. Ça te coûte. Ça m'est déjà arrivé de donner un pourboire du montant du repas. Parce que ça touche la personne. Mais si nous sommes les enfants de Dieu, où est la différence? Où est la différence dans le service? Où est la différence dans l'amour qu'on doit manifester aux autres? Ce n'est pas juste adorer Dieu sur l'estrade. Ce n'est pas juste de chanter. Oh, un sacrifice de louange. Alléluia. C'est bien. Et c'est bon, c'est un super point de départ. Il faut encore renforcer ça. Il faut consolider ça. Ça commence là. Et il faut que là, ce soit bien comme ce matin. Il faut aller au taquet. Il faut, comme dit Rodrigue, pas à cause des émotions, pas à cause de l'endroit. Tu sers parce que tu sers bien, parce que il est honorable. Il est adorable. Il est aimable. On parle de ça. Le dernier point, rapidement. Comment offrir son activité comme une offrande qui rend gloire à Dieu afin d'avoir un ciel ouvert sur ton activité? Je te garantis, ceux et celles qui entendent, qui ont des oreilles pour entendre ce matin, ceux qui vont dire, vont prendre le Seigneur au mot, je vous garantis, il y aura des changements parce que Dieu est juste et il est fidèle à sa parole. Le dernier point, la nécessité de la générosité. Dans tout ce que tu fais, ça ne parle pas uniquement de finances. Ça parle d'une entreprise qui est généreuse avec ses clients, les tiens fidèles. Par exemple. Parce que la générosité, c'est quand tu es généreux, quand tu donnes quelque chose, ce qu'il faut voir dans l'esprit, c'est que tu crédites quelque chose dans ton compte spirituel. En réalité, c'est ça. Dès que tu donnes, il y a quelque chose qui s'est crédité sur ton compte. Pas forcément finance. La Bible dit dans Malachie 3, 10, comme vous connaissez, apportez la maison du trésor, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas la bénédiction en abondance. Dieu dit, mets-moi à l'épreuve. Vous savez, le mot mettre à l'épreuve signifie quoi? Dieu dit, provoque-moi. Dieu dit, ok, provoque-moi. Je te prends au mot. Provoque-moi avec ton activité, mets-moi en épreuve. Si tu te provoques avec la générosité, il dit, j'ouvre les écluses du ciel. Un peu comme Corneille. J'aime prendre cet exemple de Corneille dans Actes 10. Comprenons bien ce qui se passe. Corneille n'est pas israélite. Corneille, c'est le premier païen à entendre l'évangile du royaume de Dieu par l'apôtre Pierre. Il y a une nouvelle ère qui s'est ouverte à partir de Corneille. Il y a une nouvelle ère pour tous les peuples de la terre à côté d'Israël qui a été ouverte. Et comment cette brèche s'est ouverte? Oui, Dieu l'avait promis, mais pas uniquement. Dieu dit à Corneille, tes prières et ta libéralité et tes largesses sont montées devant moi. Et je t'ai entendu. Vous imaginez ses prières et sa générosité a déclenché une nouvelle ère pour les païens. Dieu, wow! Tes prières et tes largesses sont montées devant moi comme un mémorial. Ça parle de ça. Ça parle que tu as une générosité dans ton activité, quelle qu'elle soit, dans ce que tu fais. C'est ce que Dieu désire. Je terminerai par cette conclusion. J'aimerais te dire que tous ici, nous sommes qualifiés pour adorer Dieu avec notre activité, avec nos œuvres. Tous. Parce que quand Jésus s'est présenté au début de son ministère, il a commencé par ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Mais vous savez, moi, je ne vous lis pas dedans Luc, là. Je vous lis ça dedans Isaïe 61. Jésus s'est arrêté à là. Mais le verset continue, le passage continue en disant « Et un jour de vengeance de notre Dieu, pour publier, pour un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les terrains bains de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. » Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils relèveront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Mais c'est qui ils? C'est l'Esprit du Seigneur sur moi, c'est ceux qui ont eu le cœur brisé, c'est ceux qui ont été affligés, c'est ceux qui ont été en captivité, c'est ceux qui ont été réellement détruits dans leur âme à cause du Seigneur et que le Seigneur a racheté. Et il dit « ils », c'est-à-dire nous, ses enfants, qui ont été abîmés dans le monde par le péché. Il dit « eux ». Dieu dit « moi, je vais les reconstruire. » Mais eux, ils rebâtiront des villes. Eux, ils prendront soin de la cité. Eux, ils impacteront la société. Je suis loin pour restaurer les cœurs brisés. Et une fois que les cœurs brisés seront restaurés, eux, ils restaureront la ville. Mais pour restaurer la ville, il faut lui offrir nos bonnes œuvres comme une offrande. Il faut savoir adorer Dieu avec nos œuvres afin d'ouvrir les écluses du ciel sur notre activité. C'est possible. Si tu as déjà eu le cœur brisé une fois et que Jésus t'a consolé, tu es qualifié. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Je n'ai pas trop tardé. C'est qu'on a un repas et on prend l'avion. On a un repas avec le leadership ici. Et après, je prends l'avion pour rentrer à la réunion. Ah, il va faire chaud. Ouais. C'est pas évident, mais. Merci. Est-ce que ça vous a parlé, le message de ce matin? Est-ce que vous réalisez le potentiel qui est en vous? Est-ce que vous comprenez la dimension d'être animé d'un autre esprit pour servir? Je vous en prie, frères et sœurs. Je vous aime, Christ. Je vous aime en tant que famille de Christ précieuse. S'il vous plaît. Comprenez que l'adoration, c'est beaucoup plus qu'un chant. C'est beaucoup plus que nos finances. C'est un style de vie. Adore-le avec ton activité. Parce qu'il arrivera un jour où il va nous dire « Je connais tes œuvres. » Et que ses œuvres puissent lui rendre gloire. Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence dans ce lieu. Je demande de saturer mes frères et mes sœurs de ta présence. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la capacité de nous transformer en la même image de Christ Jésus. Que chaque frère et sœur réalise que leur activité est juste un moyen de réaliser tes promesses, de nous faire participer à ta nature divine, afin que nous soyons transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Que cette promesse, comme Caleb, demeure embrasée dans leur cœur. Embrase-la encore plus. Qu'ils soient passionnés d'être transformés à ton image. Et quel que soit leur travail, leur mission, leur activité, leur entreprise, qu'ils puissent, Seigneur, tout faire pour te donner gloire. Je les bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, les amis. Merci beaucoup.